Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Hey, you know what?
Les Nouveaux Chemins craignent tous les jours la vengeance de Neptune en compagnie de Quentin Molinier, Jules Salomon, Géraldine Mosna-Savoie et Marianne Chassor. À la réalisation plus pure que le fond de son cœur cette semaine, Assia Khalid, avec aujourd'hui à ses côtés la prise de son incestueuse, Éric Villenfin. À 10h50, comme tous les jours, ce sera l'heure de quitter la fatalité pour la contingence avec le journal de la philosophie, présenté par François Nudelman. François qui aura la chance de s'entretenir avec Dorian Astor aujourd'hui, à propos de la nouvelle édition d'Ecce Homo de Nietzsche, parue chez Gallimard. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'émissions consacrée à quatre tragédies de Racine. Britannicus lundi avec Michel Rossellini, Andromaque mardi avec Alain Viala, Bérénice hier mercredi en compagnie de Sylvain Guyot, et aujourd'hui, pour clore avec brio et beauté cette semaine racinienne, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Dandré pour vous parler de Phèdre. Phèdre, fille de Minos et de Pasiphaé, la seconde épouse de Thésée, qui a eu d'un premier mariage un fils dénommé Hippolyte. Or, Phèdre est maladivement amoureuse d'Hippolyte, d'une passion noire et d'autant plus destructrice qu'elle ne peut l'avouer sans s'exposer aux sanctions morales de l'inceste et du vice. Déchaînement pathétique et emphatique, courroux impitoyable et suicidaire, Phèdre est d'abord et avant tout une pièce sur le silence et l'invisible, le silence de celui qui sait, par vertu, baisser les armes du langage et l'invisible de l'action qui viendra mettre fin à ses jours. Phèdre ou comment le théâtre donne d'autant plus à voir qu'il sait se taire pour, nous dit Racine, mieux instruire.
Quoi ? De quelques remords ? Êtes-vous déchiré? Quel crime a pu produire un trouble si pressant? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent.
Grâce au ciel, mes mains ne sont point criminelles. Plutôt Dieu que mon cœur fût innocent comme elles.
Et quel affreux projet avez-vous enfanté, dont votre cœur encore doit être épouvanté?
Je t'en ai dit assez. Épargne-moi le reste. Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste.
Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute.
Tu le veux? Lève-toi.
Parlez. Je vous écoute. Aimez-vous?
De l'amour, j'ai toutes les fureurs.
Pour qui?
Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime.
Qui?
Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé.
Hippolyte.
C'est toi qui l'as nommé.
Bonjour Patrick Dandré.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Merci.
Vous allez donc nous parler de Phèdre aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait de la scène 3 de l'acte 1 où le personnage de Phèdre, ici interprété par Ludmila Michael, avoue à Œnone, sa suivante, sa confidente, Œnone ici interprétée par Nathalie Nerval, son amour pour Hippolyte. Et dans cette scène, qui est une scène d'aveu, nous est donné à entendre le décalage entre la réalité et les mots que l'on peut utiliser pour nommer cette réalité. décalage surprenant dans la mesure où chez Phèdre, on a l'impression que c'est le fait de nommer la réalité qui est plus douloureuse, puisqu'elle dit qu'elle préférerait mourir que d'avouer ce qu'elle ressent.
En quoi elle a une excellente intuition, car la libération de la parole va libérer les fureurs, elle emploie le mot fureur, qui vont déchaîner l'action. Il faut peut-être d'ailleurs rappeler en deux mots cette action pour nos auditeurs qui pourraient ou l'avoir oubliée ou ne pas la connaître. On sait que Thésée, le père, le mari, est cru mort et Phèdre, son épouse, ne va pas pouvoir s'empêcher de déclarer sans y prendre presque garde, presque malgré elle, sa flamme adultérine et incestueuse à son beau-fils Hippolyte, ce sera l'acte second. Or Hippolyte, qui aime Aricie, fille d'un ennemi mortel de Thésée, ne va pas oser au retour de Thésée, car évidemment, Thésée va revenir, accuser sa belle-mère, ni avouer son amour coupable pour la jeune fille, pour une jeune fille qui est l'héritière d'une famille honnie par son père. Trompé par Enon, qui est la nourrice et la confidente de Phèdre que nous venons d'entendre, Enon qui accuse Hippolyte du crime même de Phèdre, Thésée va maudire son fils. Et un monstre marin va être délégué par Poséidon qui va accomplir cette malédiction, alors même qu'Hippolyte fuyait le courroux de son père pour épouser Aricie. Phèdre, qui va être déchiré par cette mort, en même temps par sa culpabilité et par ses remords que nous entendons déjà au moment où se libère la parole, va avouer ses fautes et mourir, rendre l'âme en scène. Voilà donc l'action. Et on voit qu'ici, le premier aveu, en fait, ce n'est pas le premier, car Hippolyte, précédemment, dans la toute première scène, a avoué à Théramène qu'il aimait Aricie. En parallèle, on voit que Phèdre avoue à Enon qu'elle aime Hippolyte. On a l'impression que les aveux et les rôles, d'ailleurs, sont parallèles entre ces deux personnages qui, au départ, étaient tous les deux nommés dans le titre. Lorsque Racine a créé la pièce, elle s'appelait Hippolyte et Aricie. Donc, Phèdre libère par cet aveu le flux de l'action. Et elle le fait, vous parliez, j'ai entendu, de pathétique, en même temps d'emphase. Elle le libère dans un type de relation avec sa confidente, une relation, je dirais, dénivelée, qui est assez caractéristique de l'origine de la tragédie. Si on peut faire un tout petit retour vers le passé, la tragédie est née en transition entre l'âge du mythe, en Grèce antique, et l'âge de la philosophie. L'âge du mythe, le mythe, la fable mythique, elle va en incarner, la tragédie, les grandeurs, les grands personnages, les protagonistes dans des personnages de tragédie qui sont plus hauts que le commun. Et elle emprunte à la philosophie déjà, enfin, ce que va être la philosophie dans quelques années, celle de Platon, le système du dialogue dénivelé, c'est-à-dire le dialogue de celui qui sait, et puis d'un cœur, si vous voulez, d'un cœur un peu profane, de gens qui ne sont pas au même niveau, si vous voulez. On entend bien cette dénivellation du dialogue. Enon est dans le quotidien, dans l'immédiat, c'est elle qui va assurer l'action, c'est elle qui va faire que ça avance, c'est elle qui va calomnier Hippolyte. Finalement, Phèdre, elle n'agit guère, elle parle, c'est tout. Nous sommes au théâtre, la parole est, comme on dit, performative, c'est-à-dire qu'il suffit de parler pour que l'action se déclenche. Et cette conjonction du mythe et de la philosophie fait que nous entendons un dialogue qui pourrait être un dialogue du quotidien entre deux personnages, et en même temps, nous sommes dans une dimension mythique, et Phèdre a une hauteur de cothurne de différence par rapport à sa confidente.
C'est-à-dire qu'à la différence des autres pièces dont on a parlé cette semaine, Britannicus, Andromaque et Bérénice, ici le sujet n'est pas tant historique que mythologique. Phèdre est un personnage mythologique.
Oui, oui, et cela change tout. Phèdre est né à la conjonction de deux traditions qui sont des traditions, l'une religieuse, c'est le culte d'Hippolyte qui avait été condamné et qui était mort dans la Grèce antique et mort pour sa chasteté, par respect pour sa chasteté, par respect pour son culte pour Diane, jusqu'à la mort. Les jeunes filles lui vouaient d'ailleurs leur chevelure. Et puis ce thème a croisé un autre thème mythologique qui est l'affaire de Thésée, d'Ariane et du Minotaure, hein, ce personnage étrange né des amours de Pasiphae avec un taureau. Et les amours donc d'Ariane et de Thésée ont amené l'abandon d'Ariane à Naxos, et puis c'est la sœur d'Ariane, Phèdre, qui va devenir l'épouse. Et à ce moment-là, se greffe sur cette seconde tradition, si vous voulez, le thème que l'on connaît aussi, qui est celui de la marâtre amoureuse de son beau-fils, qui peut être d'ailleurs l'inverse, le beau-fils amoureux de sa marâtre. Et c'est le croisement de ces deux thèmes qui va constituer la tragédie que les anciens vont déjà intitulé tantôt Hippolyte, tantôt Phèdre, parce qu'ils sont tous les deux héros à part égale, en quelque sorte. Et puis, Racine va récupérer la double tradition de l'Hippolyte porte-couronne de Ripide et puis de la Phèdre de Sénèque, s'inspirer de l'une et de l'autre, surtout de l'auteur latin, mais tout en disant qu'il s'inspire plus de l'auteur grec, peut-être est-ce plus chic. Et de la conjonction des deux, il va tirer deux inventions. La première, qui est cette absence de Thésée dans laquelle s'engouffrent les aveux, qui vont constituer l'action de la tragédie. Et puis, de notre côté, l'invention du personnage d'Arissi, qui va permettre de mettre un peu de faute dans le personnage d'Hippolyte et un peu d'indulgence dans le personnage de Phèdre. Phèdre étant jalouse, cela explique qu'elle ne dénoncera pas la calomnie dont Hippolyte est la victime de la part des nonnes, parce que la jalousie l'empêche de parler. Et puis, d'un autre côté, le personnage d'Arissi, une ennemie de son père que l'on aime, ça rend Hippolyte, non pas coupable, mais disons en situation de culpabilité vis-à-vis de Thésée. Ça explique que ces deux personnages sont en difficulté vis-à-vis de celui qui représente le fléau de la balance, l'empêcheur d'aimer, en quelque sorte.
Oui, comme le dit lui-même Racine en reprenant Aristote, hein, de ces personnages ne doivent pas être parfaits pour pouvoir provoquer un effet de pitié de la part des spectateurs. Ils doivent être ni complètement coupables, ni complètement innocents. Et c'est pour ça qu'Hippolyte, le digne et vertueux Hippolyte, qui tait la culpabilité de Phèdre pour la sauver aux yeux de son père, donc de Thésée, qui est l'époux de Phèdre, lui-même est coupable de quelque chose, puisqu'il est amoureux d'Arissi, pardon, et cet amour est interdit par les lois mêmes de la cité. Mais vous avez quelle influence réellement est-ce que la dimension mythologique de la pièce a sur la dramaturgie, sur l'écriture ? Puisque vous m'avez dit, lorsque je présentais le personnage de Phèdre comme étant tout fait d'emphase et d'exagération, voire d'hyperbole, vous disiez oui, mais c'est parce que c'est un personnage mythologique. Mmh. Est-ce la raison véritablement ? Puisque l'influence de la mythologie, on la voit au sein de l'enchaînement de la pièce elle-même, puisque les dieux interviennent dans la pièce. C'est par l'intervention de Neptune qu'Hippolyte va mourir. Phèdre elle-même se sent coupable, mais elle dit qu'elle n'est pas à l'origine de son mal, puisque c'est les dieux qui l'ont punie en la faisant ressentir cela. Donc, est-ce que la dimension mythologique n'est pas plutôt présente au sein de l'enchaînement des événements de la pièce que dans la manière qu'ont les personnages de s'exprimer ?
Cette tragédie est un modèle somptueux d'horlogerie. C'est une chose qu'il est difficile de résumer en 40 minutes ou 50 minutes. La mythologie, Racine, comme de tout ce qu'il touche, en use d'une façon infiniment complexe et infiniment variée. La mythologie, c'est un ornement, mais c'est un ornement à finalité. Ce que vous appelez son emphase, c'est simplement un décalage de langage. Il y a un langage qu'on pourrait appeler le racine, qui est un idiolecte, dans lequel amour se dit flamme et culpabilité se dit noir, si bien que Phèdre peut dérober au jour une flamme si noire, ce qui en français est absurde, mais en racine est parfaitement logique. Ce langage second, Phèdre lui insuffle une dimension supplémentaire qui est celle de sa grandeur d'héroïne qui assume tous les péchés du monde, si j'ose dire. Il y a une dimension presque christique dans les personnages tragiques qui sont chargés de porter en eux, dans une conception qui est héritée d'ailleurs de la tragédie antique, comme le sacrifice de ce qu'on appelait le bouc émissaire, mais appliqué à Phèdre, c'est vraiment tellement laid que j'ose pas dire cela. Mais enfin, disons qu'ils sont l'autre qu'une société sacrifie. Et la dimension mythologique nous aide par cet écart, par cette distance prise, à pouvoir observer dans notre quotidien, dans une intimité, une intériorité qui est celle de l'amour, mais exprimée sur une scène qui est toute décalée, qui est celle de l'ostentation mythologique, les ravages de la passion et en même temps la naissance de l'individualité dans un monde, le monde occidental du XVIIe siècle, où le nouveau roman, Madame de Lafayette, les nouveaux moralistes, La Bruyère, La Rochefoucauld, ont aidé la société à pratiquer une nouvelle étape dans cette marche vers la subjectivation des consciences qui a commencé avec Socrate, qui a continué avec les philosophes autour de Sénèque, qui va se trouver chez Montaigne et qu'on va trouver donc au XVIIe siècle. Et l'admirable tension qu'il y a en Phèdre, c'est qu'elle parle le langage sophocléen, le langage même du mythe, dans ce qu'il a de plus immense, de plus intense, de plus incommensurable, et qu'en même temps, à travers ça, elle dit une chose que Racine n'avait pas possibilité de dire dans l'outillage linguistique qu'il avait, c'est-à-dire le fort intérieur en proie à quelque chose qui ne se nomme même pas chez Racine, mais que nous reconnaissons, qui est le désir. Le désir, c'est-à-dire l'effroi, la fureur dans l'intimité, dans le fort intérieur, il fallait le dire. Et comment le dire? Par ce bricolage qui consiste à emprunter les images, les noms des divinités, les fables de la mythologie, les enfers, etc. Pour dire cette chose, mais que nous nommons autrement, mais également à travers des métaphores, et qui est l'intrusion d'une altérité au sein de soi, qui fait que l'on n'est plus soi-même, parce que le désir, c'est une maladie qui vous prend, je ne sais pas, c'est comme un microbe ou comme un virus. Je crois que c'est cela que dit, dans un langage qui nous paraît effectivement un langage de l'extraordinaire, c'est cet ordinaire que Racine découvre.
Et pourtant, Racine fait de cette pièce, selon ses dires, c'est ce qu'on trouve dans la préface donc à Phèdre, non seulement sa meilleure, il juge que c'est sa pièce la plus réussie.
Quel bon juge.
Mais également la plus vertueuse. Et donc, il est étonnant de voir que c'est pour exprimer, pour essayer de nommer ce qui ne se nomme pas, comme vous dites, le désir, et donc cette façon qu'a l'homme d'être asservi à une force qui ne lui appartient pas, mais qui le contraint dans ses faits et gestes, et donc ce recours à la mythologie pour exprimer ce désir, que ce sont par ces détours-là que finalement il propose la pièce la plus vertueuse. Et donc, on est là, effectivement, par rapport aux autres pièces, en tout cas, on a une dimension morale bien plus forte.
Une dimension éthique infinie.
Est-ce qu'on retrouve là, par exemple, l'influence du jansénisme?
Oh, quelle question! Quelle immense question! Bon,
dont on a peu parlé cette semaine, c'est pour ça qu'on pourrait en dire
oui.
De
nous. Oh, autant faire l'impasse. Oui, le jansénisme, disons plus largement l'augustinisme, qui imprégnait plus largement que la petite secte janséniste, qui imprégnait une partie de la pensée des moralistes et dans la pensée de laquelle Racine a été formé. C'est vrai que ça a pu laisser une incidence. Je parlerai plus largement d'un pessimisme qui, notez-le, peut être expliqué aussi par le fait que Phèdre se passe à une époque où la révélation n'a pas eu lieu. Et on peut toujours lire Phèdre et les dieux de Phèdre à travers cette bifocalité. D'un côté, ce sont les dieux de l'Antiquité auxquels plus personne ne croit, donc il est parfaitement normal que lorsque Phèdre avoue, elle ne se confesse pas, car elle n'a pas le sang du Christ pour l'avoir sauvé, et donc son aveu ne s'élève pas en sacrement de confession. Mais d'un autre côté, on peut très bien lire Phèdre comme une transposition allégorique, et à travers les dieux de l'Antiquité, lire un dieu de la Bible lu sous une perspective un peu étrange, disons que c'était la lecture de Mauriac. Phèdre est une malheureuse qui ne sait pas qu'il y a un dieu qui est mort pour elle, et donc Phèdre ne sait pas que elle pourrait être sauvée si son aveu et son remords, elle entendait et pouvait le sanctifier. Donc, il y a, je crois, ici, chez Racine, qui n'est pas un paradoxe près, quelque chose de vrai tout de même dans cette préface qui parle de vertu. La vertu, c'est peut-être de montrer les ravages d'un amour qui n'est pas un amour sanctifié en Dieu. C'est un amour qui est uniquement charnel, c'est un amour viscéral. Il y avait beaucoup de viscères dans la Phèdre de Sénèque. Il y avait beaucoup de mythologie dans la Phèdre, sans doute, de Sophocle que nous avons perdu et celle d'Euripide. Racine fait un mélange des deux, et entre, disons, l'en bas viscéral qui était chez Sénèque, et puis l'en haut cérébral, peut-être, qui était chez Euripide et tout de vertu, il y a cette position intermédiaire qui est que Phèdre est humaine et trop humaine.
Dire ou ne pas dire, telle est la question. C'est ici l'être même de la parole qui est portée sur le théâtre. La plus profonde des tragédies raciniennes est aussi la plus formelle. Car l'enjeu tragique est ici beaucoup moins le sens de la parole que son apparition. Beaucoup moins l'amour de Phèdre que son aveu. Ou plus exactement encore, la nomination du mal l'épuise tout entier. Le mal est une tautologie, Phèdre une tragédie nominaliste. Depuis le début, Phèdre se sait coupable. Et ce n'est pas sa culpabilité qui fait problème, c'est son silence. Il s'agit d'un silence torturé par l'idée de sa propre destruction. Phèdre est son silence même. Dénouer ce silence, c'est mourir. Mais aussi mourir ne peut être qu'avoir parlé. Avant que la tragédie ne commence, Phèdre veut déjà mourir, mais cette mort est suspendue. Silencieuse, Phèdre n'arrive ni à vivre, ni à mourir. Seule la parole va dénouer cette mort immobile, rendre au monde son mouvement.
D'un amour criminel, Phèdre accuse Hippolyte. Un tel excès d'horreur rend mon âme interdite. Tant de coups imprévus m'accablent à la fois qu'il m'ôte la parole et m'étouffe la voix.
Prêtre, Tu prétendais qu'en un lâche silence, Phèdre ensevelirait ta brutale insolence. Il fallait, en fuyant, ne pas abandonner le fer qui dans ses mains aide à te condamner, ou plutôt, il fallait, comblant ta perfidie, lui ravir tout d'un coup la parole et la vie.
De mensonges si noirs, justement irrités, je devrais faire ici parler la vérité, Seigneur. Mais je supprime un secret qui vous touche. Approuvez le respect qui me ferme la bouche. Et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis, examinez ma vie et songez qui je suis. Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. Quiconque a pu franchir les bornes légitimes peut violer enfin les droits les plus sacrés, ainsi que la vertu, le crime à ses degrés. Et jamais on n'a vu la timide innocence passer subitement à l'extrême licence. Un jour seul ne fait point d'un mortel vertueux un perfide assassin, un lâche incestueux. Élevé dans le sein d'une chaste héroïne, je n'ai point de son sang démenti l'origine. Pité, estimé sage entre tous les humains, daigna m'instruire encore au sortir de ses mains. Je ne veux point me peindre avec trop d'avantages, mais si quelque vertu m'est tombée en partage, Seigneur, je crois surtout avoir fait éclater la haine des forfaits qu'on ose m'imputer. C'est par là qu'Hippolyte est connu dans la Grèce. J'ai poussé la vertu jusque à la rudesse. On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Et l'on veut qu'Hippolyte ait pris d'un feu profane.
Oui, c'est ce même orgueil lâche qui te condamne. Je vois de tes froideurs le principe odieux. Phèdre seul charmait tes impudiques yeux, et pour tout autre objet, ton âme indifférente dédaignait de brûler d'une flamme innocente.
Non, mon père, ce cœur, c'est trop vous le sceller, n'a point d'un chaste amour dédaigné de brûler. Je confesse à vos pieds ma véritable offense. J'aime, il est vrai, malgré votre défense. Ar ici, à ces lois tient mes voeux asservis. La fille de Palante a vaincu votre fils. Je l'adore. Et mon âme, à vos ordres rebelles, ne peut ni soupirer, ni brûler que pour elle.
Tu l'aimes, ciel.
Mais non. L'artifice est grossier. Tu te fais un criminel pour te justifier.
Au silence de Phèdre, Patrick d'André correspond le silence d'Hippolyte, et silence d'autant plus, comment dire, noble, voire héroïque, qu'il est redoublé d'un aveu. Dans la scène qu'on vient d'entendre, donc dans l'acte 4, la scène 2, Thésée vient demander des comptes à Hippolyte, il lui demande si effectivement il est vrai, comme l'a dit Œnone, que Hippolyte est amoureux de Phèdre, et Hippolyte, plutôt que de dénoncer l'amour que sa belle-mère lui porte, se tait. Ne la dénonce pas, il garde le silence sur ce point et de par ce silence, ou plutôt investit ce silence d'un aveu qui est celui de son amour pour Arécie. Donc Thésée d'un côté ne sait pas si Hippolyte est véritablement amoureux de Phèdre ou si c'est l'inverse et de l'autre apprend quelque chose à laquelle il ne croit pas. Il ne croit pas à l'amour d'Hippolyte pour Arécie. Il lui reproche de se servir d'un artifice pour changer de sujet, puisqu'il ne peut pas, il n'est pas concevable pour lui qu'Hippolyte puisse aimer Arécie. Son amour est interdit. Donc cette scène est très intéressante pour ce double aspect, ce double jeu sur le langage. On est toujours à la fois dans l'aveu et dans le silence, dans ce contrôle du langage qui constitue en tant que tel la dramaturgie de la pièce.
Oui, cette scène met bien en évidence le mystère de ce parallélisme étrange, et je dirais même de cette réversibilité ou de ce croisement qui s'est produit entre les deux personnages principaux. Vous savez que quand Racine avait le projet d'écrire la pièce, Pierre Bell avait écrit à un de ses correspondants, Racine compose une tragédie d'Hippolyte. Quand la pièce est parue, elle s'appelait Phèdre et Hippolyte. Et puis quand Racine l'a revue et a produit une édition définitive de ses œuvres complètes, beaucoup plus tard, il l'a intitulée Phèdre. Ce qui est la prise de conscience que le rôle de Phèdre a écrasé celui d'Hippolyte. Il y a donc en parallèle deux personnages dont on s'aperçoit qu'ils structurent la tragédie de la même façon. À l'acte 1, Hippolyte avoue son amour à Théramène pour Aricie, à l'acte 1, Phèdre avoue son amour d'Hippolyte à Hénon, à l'acte 2, Hippolyte avoue à Aricie elle-même et Phèdre avoue à Hippolyte, à l'acte 3, Thésée revenu, ce sont des aveux avortés ou fallacieux qui l'accueillent, l'aveu qu'Hippolyte fait à son père de sa passion pour Aricie paraît un subterfuge, Phèdre alors va venir pour essayer de dire qu'il y a calomnie parce qu'elle ne peut pas quand même supporter qu'une telle chose se fasse. Mais son aveu est interrompu par la jalousie qui la retient de disculper le jeune homme. Et à la fin, l'aveu ultime de Phèdre clôt les choses. Mais derrière ce parallèle, nous avons une différence, une dissemblance absolument totale. C'est que même quand il parle, Hippolyte ne dit rien. Il ne dit pas. Son premier vers, c'est très étrange, vous venez de parler d'un héros héroïque, c'est du moins l'image qu'il voudrait donner de lui, mais n'oubliez jamais que son entrée en scène, c'est « Le dessein en est pris, je pars, cher Théramène ». Au vers 138, il va dire « Théramène, je pars ». Lorsqu'Phèdre lui avoue cet amour incestueux, sa réaction, c'est « Théramène, fuyons ». Hippolyte, c'est celui qui tout le temps s'en va. Écoutez ce qu'il vient de dire dans les vers que nous entendons. Bien sûr, on peut les dire à contre-sens, à contre-emploi. L'acteur, c'est tout à fait son droit, fait une interprétation fougueuse et indignée. Mais les mots « un tel excès d'horreur rend mon âme interdite. Tant de coups imprévus m'accablent à la fois qu'ils m'ôtent la parole et m'étouffent la voix. » Alors je veux bien que l'acteur crie, mais il crie qu'il n'a rien à dire. La seule chose qui va sortir, c'est un aveu qui ne sera pas cru, tout simplement parce que Hippolyte ne réussit jamais ce que Phèdre réussit magnifiquement, c'est à construire et à élaborer sa douleur en souffrance. Nous partageons avec les animaux le fait que nous éprouvons des douleurs. Nous sommes des mammifères supérieurs, mais nous avons mal. Les animaux n'ont pas la conscience de leur douleur, nous avons cette conscience. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Cette conscience de la douleur nous fait très mal. Alors que faisons-nous ? Nous la disons pour l'expulser. C'est ce que Phèdre ne cesse de faire. Chaque fois qu'elle a un pépin, elle fait un monologue. Ça la soulage. Excusez le ton qui n'est peut-être pas de niveau. Mais vous comprenez, Phèdre parle sa douleur. Elle la construit magnifiquement. Sa mort même, hein, lorsqu'elle arrive en scène à la fin. Elle vous explique pourquoi elle est morte. Elle a une façon de finir qui fait qu'elle assume tout parce qu'elle parle. Que fait Hippolyte ? Il est incapable de langage. Il ne parvient pas à excéder l'état de fuite, de stupeur, d'horreur et de mutisme.
Mais on pourrait aussi vous rétorquer, Patrick Dandré, que dans les deux cas, Hippolyte et Phèdre parlent pour ne rien dire, puisque Phèdre, certes, met en scène sa douleur, mais elle ne dit rien, à part le fait qu'elle souffre. Lorsqu'Hippolyte cherche ses termes pour essayer de ne pas dire qu'en réalité, c'est Phèdre qui est amoureuse de lui, il met en scène ce silence, il met en scène sa propre vertu.
Oui, mais Phèdre, par ses paroles, crée l'action. S'il n'y avait pas Phèdre, il n'y aurait pas d'action. Hippolyte ne suffit pas à faire une action. Il n'y a rien à dire d'intéressant. Alors que le fait
mais
qu'elle
avoue à Hippolyte... Mais c'est ce silence qui est intéressant, justement.
Ah ben, ce silence est une rétroaction, une clôture, si vous voulez. C'est le fait qu'il est dans une position, par la structure dramatique, où il ne peut pas dire. Et d'ailleurs, ça n'est pas intéressant, parce que celle qui mène l'affaire, c'est Phèdre, puisque c'est elle dont la passion crée l'action. Chez Phèdre, le langage est performatif, comme au théâtre. C'est-à-dire que, nous le savons, au théâtre, les choses ne sont pas avant qu'elles ne soient dites. D'ailleurs, c'est un subterfuge amusant. Nous croyons que Phèdre crie parce qu'elle a mal, mais en réalité, nous savons qu'elle a mal parce qu'elle crie. Donc la parole est première, c'est la parole qui fait l'action. Il n'y a que parole. Phèdre est donc au centre de cette affaire. Hippolyte, il est en état, même pas de réaction, je dirais, qu'il est dans un état où il se contente d'enregistrer comme un sismographe les tremblés de la passion de Phèdre. Il perd la voix, si vous voulez, parce qu'il est devant de l'ineffable. Et je croirais volontiers que ce qui s'exprime à travers là, c'est une situation historique. Une situation historique à laquelle on ne pense pas suffisamment. Hippolyte est dans un âge. Alors je sais, les personnages de tragédie n'ont pas d'âge. Ils sont dans des postures et ils changent d'âge selon les paroles qu'ils prononcent. Mais il est dans un moment de l'existence où il est à la fois en fonction de roi dès que Thésée est mort. Et il est pourtant en situation d'enfant puisqu'il est tenu en lisière. Il est dans une suggestion terrifiante. Il a au-dessus de lui un père, Volage, dont il veut, par l'image qu'il souhaite développer de lui-même, compenser en somme la faute. Il est le fils d'une mère sauvage dont il veut, par la chasse, par la brutalité de sa personne, qui d'ailleurs ne correspond pas véritablement à son être, incarner l'image. Il est soumis à une marâtre qui, elle, est d'un âge supérieur. On me dira, ils ont le même âge. Non, elle est mère, il ne l'est pas. Donc il fait partie des jeunes et elle fait partie des vieux, quel que soit leur âge. L'âge ne compte pas dans cette situation, c'est la structure qui compte. Donc il est soumis à cette marâtre, il est soumis de surcroît à un précepteur. Il est dans un âge où on n'a pas de liberté. Il exprime ce drame qui est celui de l'adolescence. Alors il a des images à fournir. Et ces images, il ne parvient pas à les incarner. Il ne donne plus dans la sauvagerie, il trahit. Il trahit sans le vouloir. Et c'est le mot magnifique de Théramène, avouez-le, tout change. Et depuis quelques jours, on vous voit moins souvent orgueilleuse et sauvage, tantôt faire voler un char, etc. Bref, il change. Et que se passe-t-il ? Il n'accepte pas ce changement. Il n'accepte pas ce changement tellurique et qu'on ne voit pas. Parce qu'il est occulté par la passion incestueuse de Phèdre, qui est qu'en lui un homme né au sein de l'enfant. Ses jouets ne l'amusent plus. Il ne fait pas voler un char sur le rivage, il ne sait pas rendre docile au frein un coursier indompté. Bah oui, il devient adulte.
Alors vous faites, Patrick d'André, de l'adolescence d'Hippolyte les raisons de son inaction et de sa trahison malgré lui. De par le silence oui. qu'il propose à Thésée, en réalité, il donnerait les éléments pour comprendre que c'est Phèdre qui est amoureux de lui. On pourrait voir ça aussi d'un autre angle, qui est celui, peut-être que c'est cette inaction... Cette absence de maîtrise du langage qui n'est pas égale donc à celle de Phèdre serait peut-être le prix à payer de sa vertu. On pourrait avoir une lecture plus morale de son attitude et penser que c'est la vertu qui l'empêche de parler et qu'en réalité il ne trahit pas Phèdre par ce silence. Et surtout, je reviens sur ce que vous disiez avant, puisque vous dites que Hippolyte, par sa parole, n'agit pas. Alors que Phèdre, elle, lorsqu'elle parle, agit. Elle a un rôle déterminant à jouer dans le déroulement de l'action au sein de la pièce. Mais en vérité, Phèdre ne fait que parler. C'est elle qui agit véritablement. C'est Énone, c'est sa suivante. C'est elle qui a l'idée de mentir à Thésée, de faire croire à Thésée que Hippolyte est amoureux de Phèdre et non pas l'inverse. Et c'est à cause de ce mensonge qu'ensuite Thésée ne saura plus qui croire et commettra une erreur. Il y a une erreur qui est centrale au sein de cette pièce, puisque Thésée croira que c'est Hippolyte Bien le sûr. Coupable. Et là, c'est Énone qui agit, ce n'est pas Phèdre.
C'est le quiproquo fatal, oui. Et vous pourriez même ajouter le plaidoyer en disant que ce n'est pas la faute de Phèdre, puisque c'est la faute de Vénus. Et c'est la faute de son ascendance. Alors pourquoi ? Mais tout simplement parce que la tragédie peut être prise à travers deux regards. L'un qui est le regard psychologique, qui est ce qu'on veut nous faire croire. Puis l'autre qui est le regard de l'analyste et qui est comment c'est construit. Et c'est construit en fait de telle manière que le personnage de Phèdre, qui est accablé par quelque chose que les contemporains trouvaient très très vilain. L'un d'entre eux avait écrit « L'idée d'inceste glace les cœurs ». Alors, qu'a fait Racine ? C'est un peintre, Racine. Donc, il a ajouté quelques touches d'ombre pour que la laideur de la couleur qui avec laquelle il peint Phèdre ne soit pas trop forte. Alors, on va utiliser Énone, c'est commode, mais tout le monde sait bien que la faute retombe sur Phèdre dans la mesure où elle n'avait qu'à dénoncer la calomnie d'Énone. Pourquoi ne le fait-elle pas ? Parce qu'elle est jalouse. Donc, je veux bien qu'Énone ait accompli l'acte. Confidents, les serviteurs accomplissent les actes. Un roi peut toujours dire « c'est pas moi qui ai tué mon ennemi, c'est peut-être pas Henri III, effectivement, qui a tué le duc de Guise, mais enfin, peut-être qu'il était un peu à l'origine de la chose. » Vous savez, ce sont ces idées qu'on laisse filer sans y paraître. Et donc, même s'il y a eu cette erreur, même s'il y a eu le quiproquo, car Thésée n'avait qu'à aussi s'informer un peu mieux. Donc, de toute façon, il y a eu des fautes de tout le monde. Il n'en reste pas moins que la faute ontologique, la faute essentielle est en Phèdre, parce que Phèdre est tout amour. Et Phèdre a, et c'est la puissance merveilleuse de Racine d'avoir compris cela, Phèdre a cette attitude vis-à-vis du désir qui fait qu'elle l'extériorise. De nos jours, on dit du vilain mot qu'elle l'externalise. Le désir, c'est l'autre en elle. C'est Vénus, tout entière à sa proie attachée. Que dit-elle à la fin ? C'est l'horrible Énone qui a tout fait. Mais bien sûr, elle n'est pas coupable. Vous allez me dire, parce que c'est une sale personne. Pas du tout, c'est pas une sale fille, Phèdre. Simplement. Elle est devant cet embarras que Racine a admirablement compris, qui est que, désirante, elle pense que ce n'est pas elle qui agit. Quelque chose agit en elle. L'aveu, elle ne le fait pas. C'est à l'intérieur d'une image labyrinthique l'aveu qui se fait, alors qu'elle ne voulait pas le faire. Et elle le dit. J'étais venue pour dire autre chose.
L'aveu à Énone ou l'aveu à Hippolyte ?
À Hippolyte.
Il y a deux aveux.
Oui,
hein.
L'aveu à Hippolyte. L'aveu dans le labyrinthe, quand elle imagine qu'au labyrinthe, avec lui descendu, elle se serait avec lui retrouvée ou perdue. Il comprend, lui, Et il lui dit qu'il en est choqué. Que répond-elle ? Mais j'ai rien dit. Mais pourquoi ? Parce que l'aveu s'est fait en elle. Le désir parle en elle. Elle est habitée par quelque chose. Alors ce quelque chose, vous pouvez l'appeler Énon. Vous pouvez l'appeler Vénus. Vous pouvez l'appeler passion, amour, tout ce que l'on veut. En réalité, ce qui se passe en Phèdre, c'est le problème d'une culpabilité non responsable.
Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée, est présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée.
Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur de mille objets divers qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mes fidèles, de mes fiers, et même un peu farouches, charmants, jeunes, traînant tous les cœurs après soi, tels qu'on dépeint nos dieux, ou tels que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots.
Lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos, que faisiez-vous alors ? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? Pourquoi trop jeune encore ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu. Ce serait avec vous retrouvé ou perdu.
Ludmila Michael, puis Patrick Dandré dans l'interprétation de Phèdre. Patrick Dandré qui est donc mon invité, et non pas seulement le lecteur de Phèdre que l'on vient d'entendre. Donc vous venez d'interpréter le deuxième aveu de Phèdre, cette fois-ci non plus à Énon, mais à Hippolyte, avec cette image du labyrinthe que vous évoquiez juste avant. On est là ici dans une image dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que le labyrinthe, on peut en proposer une lecture qui serait quasiment psychanalytique.
Oui. C'est une chose extraordinaire. Pardon à Ludmila Michael et pardon à Racine et pardon aux éditeurs pour avoir lu cela, mais c'est un moment absolument unique. Comme disait dans un autre contexte Molière, on sent un doux frisson parcourir son échine. Ce labyrinthe, c'est le réceptacle sacré de l'instant où tout va basculer. Alors là, vraiment, la parole se fait acte. C'est l'emblème d'une réversibilité totale entre l'image et ce qu'elle figure. Parce que nous sommes dans un labyrinthe, ces personnages vont être pris dans le labyrinthe de cet aveu. C'est une adéquation parfaite de la forme et du propos. On les suit dans ce labyrinthe où elle est en train de se perdre. On a l'impression que nous sommes dans... C'est un opérateur d'égalité entre le fantasme d'une espèce de transcendance du destin et puis la réalité qui est l'inclusion de la destinée au cœur de l'intime, dans le cœur de Phèdre aimante. Ce labyrinthe est à la fois le destin collectif des personnages engagés dans la crise, mais aussi les méandres de l'esprit égaré d'où éclot cette parole. Je l'ai appelé dans un livre que j'ai consacré à Phèdre, un res admirable. On appelait ainsi la structure du cerveau au XVIIe siècle. Et en même temps, dans l'idée de res, il y a l'idée d'une araignée qui tisse sa toile, une toile dans laquelle se prennent les personnages. Et on a l'impression que dans ce moment, juste ces quelques vers, le temps se suspend et se love en quelque sorte au creux d'une image. Et cette image admirable, j'ai toujours regretté que Freud, qui avait eu la merveilleuse idée de poète de nommer du nom d'Édipe, la magnifique tragédie de l'Antiquité, le complexe qui fondait sa conception de la sexualité, n'ait pas trouvé d'autre mot pour indiquer la boîte noire que unbewusst, l'inconscient, comme ça aurait été plus beau de dire le labyrinthe, parce que on voit bien qu'ici, Phèdre se perd dans le labyrinthe verbal de son discours qu'elle croit muet et qu'en même temps, elle s'y trouve. Or, ce labyrinthe, cette situation, notez qu'elle n'est pensable, elle n'est possible que parce que c'est du théâtre. Car il y a un moment dans le texte où elle dit « Que de soins m'eût coûté cette tête si chère ?» La tête de l'autre qui est là. L'aveu ne serait pas sorti s'il n'y avait pas eu cette confrontation, c'est-à-dire cette présence du corps. C'est le corps d'Hippolyte qui extirpe l'aveu de la bouche de Phèdre. Le fantasme est possible parce qu'elle substitue à l'image de Thésée l'image présente, charnelle, et c'est du théâtre, donc c'est un corps, l'image incarnée d'Hippolyte. Nous sommes ici au moment où le théâtre, dans une espèce d'acmé de la signification, rejoint son essence, c'est-à-dire l'incarnation, Dieu sait qu'il y a de la chair dans ce passage, l'incarnation qui permet à la parole de se faire chair, le vertige d'une image fallacieuse à laquelle on se confie en quelque sorte, le piège de cette métaphore qu'elle croit opaque, ne peut fonctionner que parce que Hippolyte est présent. Et c'est cette espèce d'hymne au mystère que constitue le théâtre, que représente Phèdre. Et de fait, si on regarde un peu, l'immense tragédie qu'est Édipe, grand parangon de la tragédie antique, et le parangon de la tragédie moderne qu'est Phèdre, dans les deux cas, que font ces personnages? Ils reproduisent le geste de l'acteur, endossant chaque soir, dans le mystère de sa loge, la personnalité d'un rôle qui n'est pas le leur, contre lequel ils rechignent, pour subir sous ce masque le martyr ou la gloire de n'être plus eux-mêmes, tout en n'étant pas tout à fait un autre. C'est cela qui se dit dans ces tragédies. C'est que le moment où nous basculons est ce qui fait que ni Édipe ni Phèdre ne sont coupables. Est-ce qu'ils ne veulent pas être ce que d'autres ont décidé qu'ils seront, d'autres en l'occurrence Racine ou Sophocle ou le destin ou tout ce qu'on veut, ou le fait que nous sommes des êtres de désir. En somme, on a l'impression que ces personnages assument la fonction de bouc émissaire qui est celle du théâtre antique, mais ils l'assument à travers la médiation théâtrale et à travers cette image qui est celle de l'acteur prenant un rôle. Moment extraordinaire, cet instant suprême où l'acteur entre en altérité.
J'avais beau tendre vers la Berma mes yeux, mes oreilles, mon esprit, pour ne pas laisser échapper une miette des raisons qu'elle me donnerait de l'admirer, je ne parvenais pas à en recueillir une seule. Je ne pouvais même pas, comme pour ses camarades, distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes, de beaux gestes. Je l'écoutais comme j'aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre elle-même avait dit en ce moment les choses que j'entendais, sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté. Elle passa au rabot d'une mélopée uniforme toute la tirade d'Hippolyte où se trouvèrent confondues ensemble des oppositions, pourtant si tranchées, qu'une tragédienne à peine intelligente, même des élèves de lycée, n'en eussent pas négligé les faits. D'ailleurs, elle la débita tellement vite que ce fut seulement quand elle fut arrivée au dernier vers que mon esprit prit conscience de la monotonie voulue qu'elle avait imposée au premier. Enfin éclata mon premier sentiment d'admiration. Il fut provoqué par les applaudissements frénétiques des spectateurs. N'importe, au fur et à mesure que j'applaudissais, il me semblait que la Berma avait mieux joué. « Vous avez raison, Patrick d'André, difficile de parler de Racine sans parler de théâtre, et donc de mise en scène, et donc d'interprétation, puisque le théâtre est fait pour être joué, et le texte du labyrinthe que vous avez si admirablement commenté, donner cela à entendre, l'incarnation d'un texte dans une personne, c'est le jeune narrateur dans la recherche de temps perdu, ici dans l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui fait l'épreuve de la déception totale devant laquelle que le fait vivre la Berma, cette actrice dont les talents étaient tant loués, et qui, lorsqu'il la voit interpréter la pièce de Phèdre, ne correspond absolument pas à ses attentes et lui fait faire une des premières épreuves déceptives d'ailleurs qu'il lui donnait de vivre.
Oui, et en même temps, quelle magnifique intelligence dans la compréhension de ce qui se passe lorsqu'on saute de la lecture à l'incarnation. Ce qu'évidemment ne comprend pas le narrateur, mais que comprend l'auteur, Proust, et qu'il veut nous faire comprendre à travers la déception ingénue et un peu saugrenue de son personnage, c'est évidemment que le suprême art de l'interprète consiste à ne rien souligner des perfections du texte pour laisser, par cette discrétion qui est le sommet de l'art, le texte agir sans le souligner, pas de pléonasme, une interprétation pléonastique évidemment. Et je n'ai pas été très heureux toujours des extraits que vous avez donnés, qui étaient un peu, en force. Je pense que Phèdre peut appeler une interprétation beaucoup plus discrète, et je dirais un effacement progressif de toutes ces marques. J'ai envie de dire à propos des interprétations trop chargées que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent, quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, qui sont les trois vers que Phèdre prononce en arrivant en scène, et qui sont, là encore, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, des vers d'une comédienne qui ne veut pas qu'on l'ait attifée pour jouer Phèdre. Quelle est l'importune main qui a formé des nœuds? Et le mot nœud, cette idée de l'enchevêtrement, donc du labyrinthe, quelle perfection aussi. Cette importune main, quelle est-elle? C'est celle de Racine, évidemment, c'est celle de l'auteur qui oblige le personnage à jouer ce qu'il a joué. Et quand Hénone répond naïvement que la reine a elle-même prêté la main à cette parure, Phèdre sait bien qu'un autre a tramé les nœuds de cette action fatale. Et l'a tramé si admirablement que je voudrais peut-être terminer par cette remarque presque de mathématique. Elle concerne un personnage dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, qui est le personnage de Thésée, mais qui mérite qu'on le signale. Vous savez que la pièce, c'est l'astuce de Racine, repose sur l'absence de Thésée, sur son départ, sur l'idée qu'il est mort, et puis il revient. Et dans la dernière version, celle que Racine a revue, je suis sûr qu'il ne comptait pas les vers. Sa pièce fait 1654 vers. L'annonce du retour de Thésée est au vers 827.
Exactement au milieu.
Exactement au milieu.
Et effectivement, le retour de Thésée est un retournement dans tous les sens du terme.
Le diptyque, la charnière, c'est la perfection.
N'allons pas plus avant demeure, oh chère Hénone. Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Que ce vain ornement, que ces voiles me pèsent, quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Ton affligé me nuit, conspire à me nuire. Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? Ô haine de Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère? Ariane, ma sœur, quel amour blessé! Vous mouriez au bord, vous fûtes laissé. Tout m'afflige, me nuit, et conspire à me nuire. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit aux monts inévitables. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Tout m'afflige, me nuit, conspire à me nuire.
Merci beaucoup, Patrick d'André, d'être venu nous parler de Phèdre aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous étiez déjà venu parler de Molière l'an dernier, il me semble, il y a 2 ans. Enfin, en tout cas, vous êtes le bienvenu quand vous voulez pour venir nous parler du théâtre classique. Donc je renvoie les auditeurs à l'un de vos livres que vous avez cité au cours de cette émission, Phèdre de Jean Racine, genèse et tissure d'un raie admirable, qu'on trouve aux éditions Champion.
Sa proie attachée.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h50 et 10h50, c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philosophie avec vous, François Nodelman, bonjour.
Bonjour Adèle. Avant de sombrer dans la folie, Nietzsche a écrit un livre autobiographique, Ecce Homo, livre extravagant, révolutionnaire et génial, d'un soi volcanique qui projette une grande politique. Dorian Astor a édité ce texte dans la collection Folio bilingue et nous serons avec lui en duplex de Berlin. Dorian Astor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes germaniste et philosophe, spécialiste de Friedrich Nietzsche. Alors, parlons un peu de ce livre étrange, exceptionnel, bizarre.
Oui, absolument. Comme vous disiez, c'est une autobiographie, mais qui déplace et fait sans doute exploser tous les prérequis de l'autobiographie. Le terme d'autobiographie, évidemment, est intéressant, puisque c'est auto, et que ce auto, ce soi-même, Nietzsche aura à cœur d'en redéfinir profondément le concept.
Oui, vous parlez d'ailleurs, vous faites un commentaire sur le mot « Selbstsucht », hein, le soi-même et la maladie.
Oui, voilà, « Selbstsucht ».
Que vous traduisez par « automanie ».
Que je traduis par « automanie » pour l'avoir trouvé avec délice dans des traités psychiatriques du 19e siècle. « Selbstsucht » est traditionnellement traduit en français par « égoïsme ». Or, l'allemand possède « egoismus » et on voit bien que le problème du terme « égoïsme » est de convoquer l'ego, alors que « auto », le « ipse » ou le « selbst » sont un concept radicalement différent et que Nietzsche a à cœur de distinguer, disant que l'ego est déjà une fiction, une construction de l'idéalisme.
Oui, d'ailleurs, c'est le paradoxe de ce livre qui est à la fois l'affirmation d'un moi irréductible, incomparable, et en même temps l'expression d'un soi qui est multiple, une sorte de lieu, d'une lutte entre des instincts. Donc c'est le paradoxe, c'est le paradoxe de ces jeux d'énonciation.
Absolument. Le soi ou l'individu, pour Nietzsche, est un édifice de pulsions hiérarchisées, avec des pulsions qui se soumettent et d'autres qui prennent le commandement, en vertu de sa conception de la volonté de puissance. Donc, quand on dit « je », c'est déjà toute une multiplicité de sujets infrasubjectifs, infrapersonnels, qui s'expriment. Et c'est pour ça que Nietzsche pourra dire qu'il est tous les noms de l'histoire. Il y a une démultiplication de la première personne.
Les titres des chapitres sont amusants, provocateurs. « Pourquoi je suis si sage ?» Pourquoi je suis si sagace? D'ailleurs, pourquoi sagace plutôt qu'on souvent on lit plutôt je suis si intelligent? Vous nous direz. Pourquoi j'écris de si bons livres? Pourquoi je suis un destin? Est-ce que vous pourriez commenter ces titres de chapitre?
Oui, première chose, cette provocation, cette immodestie radicale. Nietzsche a longtemps analysé l'humilité, et l'humilité sous sa forme chrétienne en particulier, comme un orgueil masqué, mélangé à un affect du ressentiment. Donc Nietzsche fait exploser ici une immodestie qui est à la fois polémique contre l'humilité et la modestie, mais aussi joyeuse, ludique. Sagace pour Klug, on aurait pu le traduire dans un niveau de langage moins relevé par malin. Oui. Bestia Klug, tu es malin, toi. Oui. Et donc il y a cette malice, ça n'est pas simplement l'intelligence, c'est lié à une rapidité d'esprit qui est très typique de l'écriture de Nietzsche.
Oui, il est futé.
Futé, exactement. Exactement.
Alors, il y a aussi tout un passage sur pourquoi j'écris de si bons livres, qui est particulièrement intéressant parce qu'il reprend les textes de Nietzsche, mais en même temps, il s'agit moins d'un résumé que d'une explication aussi des enjeux gestationnels, on pourrait dire. C'est la gestation des textes, et c'est tout à fait formidable de comprendre aussi l'inspiration corporelle donc de ces livres qui sont écrits dans des lieux particuliers, avec des amis, avec des airs de musique en tête, selon des climats.
Absolument. Le grand intérêt de Ecce Homo est d'articuler deux choses à la fois. La première chose, c'est l'aventure de l'esprit et ce que Nietzsche appelle la physiologie ou l'hygiène ou la propreté, c'est-à-dire toute une micropolitique de l'individu qui dépend justement de cet édifice de pulsions hiérarchisées et qui ancre la pensée dans le corps, dans la mesure où la pensée, le concept, la métaphore et finalement le style, l'expression artistique sont comme des pointes extrêmes, des spiritualisations extrêmes d'activités pulsionnelles du corps. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Nietzsche, comme vous le disiez, rétablit l'œuvre dans leur genèse, non seulement physiologique et psychologique, mais aussi permet d'avoir un regard plus haut, un horizon plus large. Il n'est pas toujours très honnête a posteriori, il a souvent une analyse rétrospective, en particulier pour la naissance de la tragédie. Nietzsche évoluera beaucoup après la naissance de la tragédie, mais
oui,
il montre...
Le texte était sous l'influence de Wagner et voilà. À ce moment-là, il est plutôt dans la détestation.
Voilà, mais en même temps, il montre la nécessité du passage par la naissance de la tragédie. Oui. Et c'est un modèle d'interprétation pour les textes de Nietzsche et pour les textes en général.
Projet révolutionnaire aussi, qui vise à briser l'histoire en deux. 1888 sera l'an 1. Alors, en quoi y a-t-il pour Nietzsche l'idée d'une coupure, d'une révolution ?
Parce que la réévaluation fondamentale de la subjectivité, cette micropolitique du soi dont on parlait à l'instant, ne se comprend que dans le cadre d'une macro-politique ou de ce que Nietzsche appelle la grande politique qui doit, c'est la conversion des valeurs, le renversement des valeurs, qui doit réévaluer intégralement les valeurs qui nous ont régis jusqu'ici et en particulier les valeurs de la subjectivité. Le pendant de cette mégalomanie entre guillemets du projet autobiographique d'Ecce Homo, c'est une critique radicale de l'égalité entre les différents sujets. Il y a, on le sait, un profond antidémocratisme de Nietzsche.
Oui, mais vous remarquez, vous observez dans votre présentation que sa politique est antidémocratique, mais pas du tout fasciste ni raciale.
Oui, absolument.
Vous rappelez cela.
La biologisation du concept de race qui, lorsqu'il est employé chez Nietzsche, définit des traits et des histoires longues de valeurs morales. La biologisation est le même réductionnisme à un autre niveau que de réduire l'individu au moi. Il n'y a aucune substantialisation possible, fût-elle biologique, de la race.
Le texte se termine de manière un peu énigmatique. M'a-t-on compris, Dionysos contre le crucifié ?
Oui, énigmatique, vous le dites. Évidemment, l'enjeu immédiat est ce renversement des valeurs dont Nietzsche parle, qui sont essentiellement, à preuve, l'Antéchrist, dont la rédaction vient après Ecce Homo, une lutte à mort contre les valeurs chrétiennes. Donc le crucifié est ici le grand fondateur, le grand ennemi, cet adversaire parfait dont Nietzsche a besoin pour renverser les valeurs.
Oui, et en même temps Ecce Homo, qui est une référence évangélique.
Exactement, en même temps Ecce Homo et Dionysos, par un nouveau sacrifice, une lacération plutôt qu'une crucifixion, c'est-à-dire aussi la lacération, la démultiplication de la subjectivité issue du christianisme, eh bien, l'alternative est là entre Dionysos et le Christ.
Merci beaucoup Dorian Astor. On comprend cette phrase aussi de Nietzsche. Hein. Je ne suis pas encore à l'ordre du jour. Il y a des penseurs qui naissent posthumes et vous le faites renaître aussi à votre manière par cette belle édition. Ecce Homo, comment on devient ce que l'on est, paru en folio bilingue. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve, non pas demain d'ailleurs, mais lundi, car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit au micro des nouveaux chemins. Philippe Petit qui parlera de la psychologie des philosophes en compagnie du philosophe Frédéric Fruteau de Laclos. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée à David Lynch, mais d'un David Lynch philosophe. L'âme et le corps, la subjectivité, l'horreur et l'apparition, autant de thèmes qui feront des films de Lynch un matériau très fécond pour la pensée, vous verrez. si entre vendredi et lundi, vous ne pouvez pas vous passer de philosopher, eh bien rendez-vous dimanche à 16h pour Le Gai Savoir, l'émission de Raphaël Antoven, qui cette semaine parlera du neveu de Rameau de Diderot.